Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
L'Italie chez vous, le dimanche matin, c'est Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
E va bene lo so, oh oh, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere, non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
E il presentatore della domenica quest'oggi è Alain Mengual.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti, come dice Alain, ed è vero, Michele sta dormendo, almeno spero per lui, la serata è stata un po' difficile alla box, è andato al gala di box e per sostituirlo. Bene, l'8 e il 9 giugno c'è un referendum dove noi tutti, italiani all'estero, potremo votare e per spiegarci come si passerà la cosa, abbiamo qui Matteo che ci fa la grande cortesia di dire come si può fare.
Oui, buongiorno a tutti,
buongiorno,
grazie
buongiorno,
mille
Matteo.
Renato e Radio Cappuccino di averci dato la parola. Come ha detto Renato, ci sarà un referendum l'8 e 9 giugno, ci interessa anche per noi italiani che viviamo all'estero, perché sarà possibile votare all'estero per chi è iscritto all'AIRE. Quindi chi è iscritto all'AIRE riceverà un plico postale entro il 21 maggio e potrà avere, e dentro ci saranno tutte le indicazioni per poter votare per corrispondenza. Se non dovreste ricevere la lettera, il plico, entro il 25 maggio, sarà necessario a quel punto contattare il consolato italiano a Parigi. Per cosa si vota? Allora, si tratta di un referendum abrogativo, quindi per abrogare, eliminare alcune leggi. Sono 5 quesiti che riguardano il lavoro e la cittadinanza. Allora, in Italia una possibilità che abbiamo rispetto alla Francia è proprio quella di poter votare per abrogare alcune leggi. Questo è un grande potere che è dato ai cittadini, pensiamo sia molto importante, visto che è un diritto costituzionale, usufruirne. E per cosa si vota? Sono 5 quesiti, come dicevo. 4 riguardano il lavoro e 1 lo riguarda la cittadinanza. Il primo quesito sul lavoro permette di, se passa il sì, permetterà per le persone licenziate illegittimamente di essere reintegrati nell'azienda, cosa che ad oggi non è possibile. Il secondo voto riguarda la tutela dei lavoratori delle piccole imprese. Se sono licenziati illegittimamente, ad oggi sono solamente indennizzati con un'indennità di 6 mesi di mensilità, mentre se passa il sì sarà possibile che il giudice decida l'indennizzo sulla base della condizione dell'azienda e del lavoratore. Il terzo quesito riguarda la riduzione del lavoro precario. Sarà più difficile, se passa il sì, avere dei contratti a tempo determinato. Il quarto quesito, la sicurezza sui luoghi di lavoro. Se passa il sì, le aziende appaltanti, le aziende committenti saranno responsabili della sicurezza del lavoro anche nel caso dei subappalti e sulle aziende subappaltatrici. Il quinto quesito, infine, riguarda la cittadinanza. Ad oggi, in Italia, per essere naturalizzato, per avere la cittadinanza, sono necessari 5 anni di residenza stabile per i cittadini europei, 10 anni per i cittadini extracomunitari. Quindi, se passa il sì, anche i cittadini extracomunitari si troveranno nella stessa situazione di uguaglianza e sarà per loro necessario solamente 5 anni di residenza, di vita stabile in Italia, contribuendo alla società italiana, per poter richiedere la cittadinanza. Quindi questi sono i 5 quesiti, spero di avervi invogliati a informarvi, andare al voto e esercitare questo diritto che abbiamo anche dall'estero.
Tutto?
È tutto.
Ti ringrazio, grazie, Matteo.
Grazie.
No, sei proprio stato puntuale. Sì, 9:30, a lei non ha niente da dire.
Trasporto complicato.
Malgrado i trasporti, vi ringrazio molto.
Immagini, il nostro piacere, dai. Il nostro.
Alors, aujourd'hui, le programme, on va commencer comme d'habitude par notre petit feuilleton de la recette de cuisine d'Alessandra Pierini. Bien. Aujourd'hui, ce sera l'ossobuco à la milanese. Ensuite, on aura une petite rubrique culturelle. Et ensuite, on partira à Cannes avec notre envoyé spécial à Cannes, Fabrice Mazera, qui a rencontré divers artistes et qui va nous envoyer quelques interviews. Et puis, on reprendra l'émission avec quelques chansons pour terminer. Donc, tout de suite, la recette d'Alessandra Pierini.
Bonjour à toutes et à tutti. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de la tradizione di Milano avec un plat emblématique.
Cosa c'è nella padella?
L'ossobuco alla milanese.
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Ce ragout de jarret de veau mijoté lentement dans une sauce parfumée qui incarne tout le raffinement de la cuisine du nord de l'Italie. Servi avec une grémolata rafraîchissante et un risotto au safran, il est l'un des plats les plus appréciés de la gastronomie italienne. Suivez-moi en cuisine pour cette recette aussi élégante que savoureuse. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 4 tranches d'ossobuco de veau dans le jarret, un oignon, 2 carottes, 2 branches de céleri, 400 g de tomates pelées, 200 ml de vin blanc sec, 200 ml de bouillon de viande, un petit bouquet garni, par exemple avec du persil, du thym, du laurier, de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Et pour la grémolata, notez bien, 6 brins de persil frais, un filet d'anchois, une demi-gousse d'ail et le zeste d'un beau citron. Farinez les tranches d'ossobuco et faites-les dorer dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive. Là, vous allez ensuite les réserver. Faites revenir l'oignon, les carottes et le céleri finement haché dans la cocotte. Déglacez avec le vin blanc, ajoutez les tomates, le bouillon, le bouquet garni et remettez la viande salée et poivrée. Couvrez, laissez mijoter à feu très doux pendant 2 bonnes heures. Avant de servir, parsemez de grémolata en faisant un hachis de persil, d'ail, d'anchois et de zeste de citron. Vous pouvez accompagner ce plat vraiment succulent, je vous le garantis, d'un risotto au safran comme à Milano. Donc, régalez-vous.
Sono Alessandra Pierini. Retrouvez chaque semaine mes recettes traditionnelles de cuisine italienne. Ciao et à la settimana prossima.
Si quelqu'un veut nous inviter, nous sommes prêts à partir.
Oui, hein. Parce que ça nous a mis un peu la colonne in bocca, hein, cet ossobuco. Alors, on va parler de rubrique culturelle. Donc, en ce moment, on peut voir un film italien qui s'appelle Les lettres siciliennes en français, Iddio, Iddu en sicilien, avec Tony Servillo et Elio Germano. C'est un film de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, deux réalisateurs qui ont déjà fait des films sur la mafia. Et cette fois-ci, c'est un film un peu décalé où ils se moquent un peu des anciens mafieux, notamment Tony Servillo. Et le grand événement cinématographique aussi, c'est la rétrospective Carlo Lizzani à la Cinémathèque. Aujourd'hui, c'est juste au CO24 et on peut voir, par exemple, aujourd'hui, 2 films. À 17h30, le film tiré de Fontamara, le grand roman de Ignazio Silone, cet auteur donc, de l'Abruzzo. Et puis, à 20h15, La Casa del Tappeto Giallo, c'est un giallo. Solizani a fait des films de tout genre. On a vu aussi le procès de Vérone sur comment on a condamné Ciano et tous les autres. Donc, c'est un cinéaste à voir. Et la Cinémathèque offre à nos auditeurs un tarif préférentiel à 4 euros avec un mot de passe qui est Lizzani Cappuccino, donc à donner aux caisses ou bien en ligne, réservé en ligne. Lizzani avec 2 Z et Cappuccino avec 2 P et 2 C. On peut voir aussi, en ce qui concerne une exposition, l'exposition Artemisia Gentileschi au musée Jacquemart-André. On va partir donc ensuite à Cannes, mais on va commencer par une chanson d'un grand film qui est de très belle comédie de Sordi avec Monica Vitti, c'est Mandovai.
Et cappuccino au Festival de Cannes.
Pronto Fabrizio.
Tu sais... Pronto Alain.
Si.
Bonjour à tous l'équipe, bonjour à toute l'équipe de cappuccino.
Salut, salut.
Ciao, ciao.
Alors.
Tutto bene.
Tutto bene per noi et per te. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, écoute, ça va très bien. Ben là, je suis sur la terrasse des journalistes, là, voilà, pour la première fois en direct dans Cappuccino au Festival de Cannes. L'année dernière, j'étais venu, mais comme j'avais pas de dimanche, on n'a pas pu faire de direct. Mais cette année, on est en direct avec vous et les auditeurs.
Alors, parle-nous un petit peu des films italiens qu'on peut voir à Cannes, notamment.
Alors, les films italiens qu'on peut voir à Cannes, il y en a trois. Essentiellement trois, donc un dans la compétition officielle, c'est Fuori de Mario Martone. Donc les trois sont pas encore passés, donc j'ai pas pu les voir. Mario Martone, la première séance, ça sera mardi soir. C'est un réalisateur vraiment émérite, grand réalisateur napolitain et aussi grand metteur en scène de théâtre. Donc il a fait une biographie sur l'actrice et écrivaine italienne Goliarda Sapienza, inspirée de son livre L'Università di Rabibia, qui raconte le séjour en prison de l'écrivaine, donc qui est interprétée par Valeria Golino. Et il y a aussi au casting Matilda De Angelis et Elodie, la chanteuse Elodie Di Patrizi. Donc c'est un pan de l'histoire italienne qui est très important. Donc il concourt pour la Palme, hein, pour le prix le plus prestigieux. Donc c'est vrai que s'il gagnait un prix prestigieux, ça serait vraiment un gros coup de pouce au cinéma italien. Faut savoir que son livre, donc elle a écrit entre 67 et 76, était contestataire, était féministe et a été vraiment occulté en Italie. Et il n'a eu le succès finalement que en Allemagne et en France quand il a été traduit et publié. Et du coup, les Italiens l'ont reconnu suite à ça.
Fabrice,
donc, je rappelle. Je sais pas Mario Martone, je sais pas Alain si tu avais déjà vu ces précédent film, il avait son premier film, ça avait été un grand coup de maître, ça s'appelait Morte di un matematico napoletano, c'était en 92. C'était sur l'histoire de Renato Cacciopoli, un mathématicien, et il a eu le Lion d'argent directement à la Mostra de Venise. Il a fait L'amour meurtri ensuite en 95, qui avait été au Festival de Cannes, L'amore molesto. Il a mis en scène des opéras à la Scala de Milan, donc théâtre et opéra. Il a fait aussi le Giovane Favoloso, Nostalgia, c'était l'adaptation du roman de Ermanno Rea avec Pier Francesco Favino. D'ailleurs que Pier Francesco Favino, j'en parlerai tout à l'heure, il est au casting d'un film français. Il est à Cannes, cette année. Donc voilà, et Nostalgie aussi, il avait été sélectionné à Cannes et aux Oscars en 2023. Donc voilà, un grand cinéaste avec un film où toute l'Italie va être donc va aller le, on va dire le destin du cinéma italien repose beaucoup sur ses épaules. Après, on a deux autres films dans la sélection Un certain regard, donc c'est une sélection qui est aussi primable, où il y a des films un peu plus du cinéma d'auteur. Le premier, c'est Le Città di Pianura, qui a été traduit en français par Un dernier pour la route, c'est de Francesco Sosai. C'est l'histoire de deux hommes d'âge mûr en Vénétie qui vont se lier d'amitié avec un étudiant en architecture qui va transformer leur vie. Donc voilà, ça sera en première mondiale le 21 mai à Cannes, c'est-à-dire lundi, c'est ça ? Non. Le 21 mai, c'est mercredi, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, Fuori de Mario Marton, et c'est mardi. Et un troisième film italien qui s'appelle Testa o Croce, et Pile ou face en français de Matteo Zoppis et Alessio Rigo de Righi. Ça sera jeudi. Là, c'est un western un peu humoristique avec Alessandro Borghi, qui a été le protagoniste dans le film Huit montagnes, adapté de Paolo Cognetti, et Nadia Tereskevich, qui est une actrice française qui avait fait Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi et qui avait été César du meilleur espoir 2023 pour ce film. Ça se passe dans la Camargue italienne, au sud de la Toscane. C'est dans les Maremme, et donc c'est l'histoire de cow-boys qui vont gagner un concours de lasso, et la jeune épouse d'un noble va s'enticher de ce butero, les cow-boys de la Maremme. Voilà pour les films italiens.
Fabrice, je t'arrête un instant. On peut préciser aussi que ce Alessio de Rigo de Righi, avec son complice Zoppis, avait fait un film qu'on a vu en France qui s'appelait Re Granchio, qui était un film très original, et que on a connu la Goliarda Sapienza surtout en France par L'Arte de la Gioia, que tu n'as pas cité, oui. Qui est ce livre. Qui l'a fait même.
Mais
que...
j'allais le citer.
Pardon.
Voilà. Ouais, L'Arte de la Gioia, qui était justement ce livre qui a eu énormément un grand retentissement, et elle est devenue une des écrivaines emblématiques de l'Italie au XXe siècle, alors qu'elle a été pendant longtemps, on va dire, de fait censurée, parce que son livre ne trouvait pas d'éditeur.
Et une dernière chose, le dernier film de Marton qu'on a pu voir qu'au Festival de Rome à Paris, qui s'appelle Qui rido io, qui est sur la vie de Eduardo Scarpetta, c'est-à-dire le père de Eduardo de Filippo, Titina de Filippo et Peppino de Filippo, qui menait une double vie avec sa femme officielle et sa maîtresse de Filippo. Et ce film, malheureusement, n'a pas été distribué. On regrette, parce que c'est un très bon film. Est-ce qu'on peut écouter maintenant un petit extrait de tes interviews ?
Oui, voilà, on va tout au long de l'émission, on va écouter des petits extraits des rencontres, ou des fois c'est des rendez-vous, des fois c'est des rencontres un peu fortuites que j'ai fait tout au long du festival.
On écoute un premier extrait.
Top Italia et Cappuccino.
Alors là, je suis avec Riccardo, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa fai a Cannes?
Sono qui per scrivere. Insomma, devo vedere tutti i film, scrivere, fare le recensioni, insomma, non vedo l'ora.
E qual è il tuo media?
Il mio media? Io scrivo su Quarta Parete. Lo trovate su Instagram, insomma, su internet, è una rivista online, ci occupiamo di cinema e lo facciamo come si deve.
E allora lascio avec Gabriele, che sei un collega di
Sì, sono un collega di Riccardo, e caporedattore di Quarta Parete, che è questa testata online ancora un po' piccola, però che cerca di occuparsi a 360 gradi di cinema.
Cosa sperate di questo Festival di Cannes?
Ci aspettiamo molto, perché Cannes, insieme a Venezia, che ovviamente non possiamo non citare da italiani, è il festival più importante del mondo, quindi le aspettative sono altissime.
E anche la mostra la coprite?
Copriamo anche la mostra, copriamo tutti i festival che riusciamo a coprire, dalla Berlinale a Roma, Firenze, tutto quanto.
Che bravi, e in bocca al lupo allora per Cannes.
Grazie,
eh?
Grazie Crepi.
Grazie, grazie mille.
Top Italia, il cappuccino.
On va peut-être faire une petite pause musicale cette fois avec la musique des Notti di Cabiria.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Alors Fabrice, nous revoilà. Après ces journalistes, on attend l'interview d'une star d'origine italienne.
Ah oui, bien sûr, mais je vous laisse la surprise.
Ah, ah, il faut qu'on le devine alors, c'est ça?
Oui, mais bon, de toute façon, je l'interpelle. Non, je sais pas d'ailleurs. Non, je le dis dans le reportage.
Ok.
Je dis dans le reportage, dans le petit son. Hein,
alors,
très court.
On l'écoute.
Il y a l'acteur américain de la Little Italy, Robert De Niro. Là.
Maestro, buongiorno. How do you feel for Italy? You've been? Thank you.
Thank you so much.
L'artiste contemporain JR suit Robert De Niro avec sa caméra.
Ça va?
On a compris, c'était Robert De Niro d'une brève, très brève.
Oui, on a compris parce que j'ai dit, parce que sinon c'est sûr que c'était un peu... Mais j'étais quand même au premier rang, un peu par hasard, je me trouvais là à ce moment-là et il y avait énormément de monde. Et enfin, oui. Quelqu'un de très, très... Un producteur que j'avais juste rencontré avant, très sympa, m'avait dit « je te garde une place si tu veux ». Et en fait, c'était à la base, c'était pour voir les membres du jury, dont Alba Rockwecker pour l'Italie et Juliette Binoche, la présidente du jury. Mais voilà, a débarqué Robert De Niro, donc on s'en est pas plein. Ouais. Et il est très sympathique.
Et on suppose qu'il était plutôt entouré, que c'était pas facile peut-être aussi de l'aborder longuement.
En fait, là, c'était vraiment dans le palais, donc c'est que les gens accrédités qui sont dans le palais, mais même là, il y avait énormément de monde. Donc, évidemment, oui, il y a énormément de sécurité. Quelques minutes avant, tout est bouclé. Il y a vraiment tout un périmètre extrêmement sécurisé. Mais ça se passe bien. On a voilà des chances comme ça d'avoir des petites pépites, des petits moments d'étincelles qui nous mettent en joie pour la journée, quoi. Surtout que c'était mon premier contact avec un acteur ici, donc c'était plutôt pas mal.
Ok, est-ce qu'on écoute un petit extrait musical qui va nous rappeler un film de Robert...
Un petit extrait, ouais, un film avec Robert De Niro, du coup.
Si, bien sûr, oui, si. On y va, on lance.
Allez, c'est parti. Thank you.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors Fabrice, d'autres rencontres encore?
Oui, d'autres rencontres encore. Avant de passer à la prochaine rencontre, je voulais faire un petit point. Bah, d'ailleurs, je voulais demander, Alain, qu'est-ce que tu retiens de la carrière, toi, de Robert De Niro? Quels sont tes films favoris?
Ah, c'est essentiellement ces films américains que je ne saurais pas te les citer tous, à vrai dire. Je sais, moi, je suis plutôt...
Moi, pour ma part, c'est Taxi Driver. Et Casino.
Oui. Oui, essentiellement Taxi Driver, certainement.
Et alors, moi, je voulais juste avant faire un petit point sur le Festival de Cannes pour vous présenter un peu ça, parce que c'est vrai que c'est un événement qui est très connu, mais en fait, il faut quand même savoir que c'est un festival de cinéma professionnel, donc qui s'adresse à la base pas au public. Il a été ouvert au public avec la quinzaine des cinéastes il y a quand même pas mal de décennies. Et aussi, il y a une sélection qui s'appelle « Le cinéma de la plage », qui est une plage aménagée juste sur la Croisette où, avec 700 places sur des transats, on peut voir des films tous les soirs, donc en accès libre, gratuitement. Il faut juste venir un peu avant, les séances sont à 21h30, il faut que la nuit soit tombée. Et là, on a des super films, on va voir le prochain film de Tony Gatliff, on a un film italien, c'est le film de Nanni Moretti, Palombe la Rossa, qui va être diffusé mardi ou mercredi. Il y a plusieurs sélections. Alors, pour situer aussi, il y a 230 000 personnes qui sont sur Cannes et voilà, et les environs pour ce festival. Donc, c'est énorme. Pour une ville qui fait 75 000 habitants à la base, les festivaliers, ils sont au nombre de 40 000 et il y a 4 200 journalistes accrédités. Donc, il y a plusieurs sélections. Donc, la sélection officielle la sélection officielle, ça comprend un peu toutes les sélections annexes. Il y a la compétition où il y a les prix, il y a Un certain regard, donc sur un peu plus le cinéma d'auteur, il y a les films hors compétition, comme par exemple le film d'ouverture ou le film avec Tom Cruise, la Mission Impossible, par exemple des blockbusters, il y a les premières séances spéciales, il y a des courts-métrages, il y a les ciné-fondations, il y a Cannes Classics, ça aussi c'est une super sélection où j'aime bien aller, c'est des films restaurés. Justement, il y a souvent des films restaurés par la Cineteca de Bologne, puisque l'Italie est en première ligne sur la qualité de la restauration des films classiques. Et il faut savoir qu'il y a jusqu'à 80 projections par jour sur le festival, avec des grandes salles comme la salle le Grand Théâtre Lumière, où j'ai pu voir le film Vendredi soir de Pono. Je vais vous parler un petit peu après des films que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Il y a la salle de Bussy la grande salle, elle doit faire 2500, 3000 personnes, donc c'est assez énorme. Il y a la salle de Bussy à 2000 personnes. Et donc cette année, comme je le disais tout à l'heure, le jury est présidé par Juliette Binoche, qui fête cette année ses 40 ans de festival. C'était en 1985 avec Rendez-vous de André Téchiné. Et elle a eu 10 participations, dont un prix d'interprétation pour copie conforme d'Abbas Kiarostami. Elle est présente donc aussi avec Alba Rockwecker, que j'ai cité, qui avait tourné chez moi, plutôt chez Marco Bellocchio à Bobbio dans Sangue del mio sangue, en province de Piacenza, en Émilie-Romagne, où d'ailleurs Juliette Binoche était venue pour le Bobbio Film Festival il y a quelques années de Marco Bellocchio. Voilà. Et simplement, pour finir, précisons le marché du cinéma italien. En 2023, il y a eu 20 millions d'entrées, donc il est en forte hausse, alors qu'en 2022, il n'y avait qu'une dizaine de millions d'entrées. Cinecittà va être relancé, là, il y a eu les David Di Donatel qui étaient à Cinecittà, ils vont faire ils veulent vraiment remettre le cinéma italien, mais on part quand même d'assez loin, puisque pour comparatif, le cinéma français fait à peu près 220 millions d'entrées par an. Voilà pour la présentation du festival. On va peut-être s'écouter une prochaine rencontre.
Oui, volontiers, oui.
Voilà, donc c'est j'avais un rendez-vous, c'était en bonne et due forme, c'était une conférence qui s'appelle World Women Cannes Agenda, qui est juste à côté du palais, sur les parcours de femmes qui veulent affirmer aussi leur puissance, mais pas que, qui veulent aussi dire qu'elles sont l'égale des hommes. Et donc, il y avait plusieurs conférences. Et donc, là, j'ai pu rencontrer la comtesse Chiara Modica, Donna delle Rose, donc du palais Donna delle Rose à Venise, dont la famille est à Galilée. Elle a une histoire d'un des plus vieux palais de Venise. Et voilà, on va écouter ce qu'elle dit, mais c'est vrai que c'est la particularité de leur famille aussi, c'est que les enfants doivent acheter la maison à leurs parents. Ils n'héritent pas automatiquement de la fortune, et donc son palais a été aussi le lieu de spectacles musicaux, beaucoup de spectacles musicaux, et surtout énormément de tournages très prestigieux, dont par exemple la série de Paolo Sorrentino, New Pope, avec Jude Law. Voilà. Donc la comtesse Chiara Modica Donna dalle Rose.
Fabrice, il faudrait essayer que tu te déplaces parce que la liaison devient un peu mauvaise. On écoute cette interview de la comtesse.
Alors, je suis avec la comtesse Chiara Modica Donna dalle Rose. Buongiorno.
Buongiorno.
Et merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Donc vous êtes au Festival de Cannes dans cette conférence déjà pour les femmes. Quel message vous avez voulu faire passer ce matin ?
C'est un message, parce que là on est quand même au Festival du cinéma, c'est un peu comme le théâtre, c'est une sorte de proportionnalité, comme un roi et une reine, non ? Le théâtre et le cinéma. La photo et le cinéma. Alors, nous, avec le cinéma, on rentre dans la vie des autres. On se met dans la peau des autres. En anglais, on dit dans les chaussures des autres. Et moi, je viens de Venise. Alors, j'ai quand même. Bon, je suis partisan de Venise. Le festival de Venise, le festival de Berlin, le festival de Hollywood, le festival de Cannes sont des différentes planètes où on peut vraiment pousser notre imagination. Mais, et je dis toujours que Venise, c'est la ville la plus ancienne du monde, mais c'est aussi une des villes qui est toujours future. Elle garde toujours le futur.
Qui écrit son futur et qui écrit son présent.
Oui, elle est toujours là.
Alors, justement, su Venezia, lei ha un palazzo a Venezia,
sì,
che è stato un po' danneggiato, come si può dire?
No, allora, il nostro palazzo prende il nome della nostra famiglia, cioè Palazzo Donna delle Rose, è l'unico palazzo di Venezia che è rimasto sempre della stessa famiglia. Non ce ne sono altri perché i palazzi cambiano nome quando vengono comprati, ereditati, e poi vengono divisi, parcellizzati tra gli eredi. La nostra famiglia ha avuto tre dogi, ma non solo tre dogi. Uno di questi ha salvato Galileo Galilei dall'Inquisizione, ha finanziato i primi 70 telescopi di Galileo, che poi è nato a Padova. Niccolò Donà nel 1961 ha costruito Porto Rotondo insieme al suo amico Karim Aga Khan, che ha costruito Porto Cervo. Quindi è una famiglia che nei secoli ha fatto molto. Siamo un caso a parte, infatti siamo l'unica casa che ha il cappello del doge, e sempre lavorando. Ecco, non è mai stata un'aristocrazia supina, che dorme, che disdegna il lavoro, anzi esattamente il contrario. C'è infatti un'abitudine in famiglia che i figli comprano la casa ai padri, cioè non è un'eredità, cioè bisogna un po' guadagnarsela.
Ah, ok.
Merci per questa interview di questa contessa veneziana. Une autre rencontre, Fabrice?
Ouais, alors si tu veux qu'on continue avec, yes. Toujours dans la conférence du World Women Agenda, il y avait justement une avocate qui s'occupe de la défense des femmes battues, notamment dans certains pays en guerre, en Syrie, en Irak, et qui est d'origine égyptienne, mais donc qui vit en Californie, donc qui est une amie de la comtesse vénitienne. Elle s'appelle Jacqueline Isaac.
Ciao, Jacqueline Isaac.
Donc vous êtes à Cannes et vous êtes avocate, c'est ça, pour le droit des enfants et des femmes.
C'est avocat pour la femme, oui. Pour sexual violence dans l'Irak, Syrie, Genève, Californie, mais ma mère et mon père sont égyptiens.
Vos parents sont égyptiens, bravo, et vous êtes né en Californie.
J'ai oublié, mais j'ai...
Et vous avez un prénom français, Jacqueline.
Jacqueline, oui, oui, oui. Et aussi... Ma mère, Yvette français aussi.
Yvette.
Yeah, yeah, oui, yeah.
Alors, rendez-vous, oui, l'année prochaine, oui, ici, oui, à Cannes, oui, pour une interview,
okay,
en italien.
Ok, 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 d'accord. Ok, prochaine, yeah, prochaine fois, j'ai parlé avec vous en italien, solement.
Grazie mille, Jacqueline.
Grazie.
Une autre rencontre intéressante. On voit des à l'international, puisqu'on a de toutes sortes de gens, évidemment, qui se réunissent à Cannes pour se présenter leurs films.
Là, je crois qu'on a fini, non, sur les rencontres et le reportage.
Alors, on va passer peut-être une musique.
Ouais.
Une musique de Ennio Morricone.
Eh bien, très bien. Le bon, la brute et le truand.
Ok. L'estasi dell'oro.
C'est ça.
Alors Fabrice, est-il possible à ce jour...
Allô ?
Oui, c'est bien, on t'entend.
Qu'est-ce que tu me disais ?
Oui, je disais, est-il possible déjà d'avoir un aperçu des films est-ce qu'il y a déjà des favoris ? Pas encore
on va dire les avis des journalistes, c'est quand même un peu mitigé. Alors, il y a un film que moi j'ai vu qui s'appelle Sira, qui est un film avec Sergi Lopez, qui raconte l'histoire donc d'un père avec son fils qui sont à la recherche de leur, le père est à la recherche de sa fille dans le désert marocain, dans des rêves parties. Et c'est un film qui fait plus de 2 heures, qui est assez clivant, mais alors il a été quand même cité 4 fois palmable par les grands journalistes des grands journaux critiques de cinéma. Après, il y a aussi le film Dossier 137, de Dominique Moll. Donc là, c'est un film avec Léa Drucker sur... elle joue le rôle d'une inspectrice de la police des polices en 2018-2019 dans le cadre d'une sorte de bavure pendant les manifestations des Gilets jaunes où des policiers ont tiré avec des LBD là, des balles en caoutchouc sur la tête et donc qui ont fait des dégâts irréversibles sur la tête d'un jeune. Et donc, elle joue très bien Léa Drucker dans ce film. Et là aussi, il a été très bien reçu. Il y a deux films que j'ai adoré. Donc vraiment, mon film coup de cœur, ça s'appelle L'intérêt d'Adam. Mais c'est deux films qui ne sont pas dans la compétition, par contre. Qui est L'intérêt d'Adam, il est dans la semaine de la critique. C'est un film belge avec aussi Léa Drucker. Et là, elle est aussi un peu dans ce rôle-là, donc dans quelqu'un qui a une interprétation d'un métier très précis où elle a vraiment elle joue une infirmière dans un secteur, dans une unité psychiatrique d'un hôpital. Et voilà, sa prestation, elle est remarquable, elle est de tous les plans. Et c'est un film vraiment coup de poing que j'ai adoré, même si le sujet à Cannes, les sujets ne sont pas toujours très 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 divertissants. Le festival de Cannes se targue quand même d'essayer d'avoir des films qui sont en prise avec l'actualité, en prise avec la société, la contemporanéité. Et donc L'intérêt d'Adam fait partie de cela. Et donc on sent qu'il peut s'inscrire dans le cadre des films qui ont une utilité sociale. Il y a un autre film qui s'appelle Que brille le combat de Joséphine Japy avec Mélanie Laurent, qui est l'histoire d'un couple qui habite dans une maison cossue à Nice, qui ont deux filles, une fille qui passe son bac et une autre qui est atteinte d'un grave handicap. Donc elle fait l'objet de crises, donc d'attention en permanence de ses parents. Et là aussi, c'est un film très poignant et dont la réalisation est très très fluide, qui se regarde très bien, que j'ai beaucoup aimé. Et donc sinon, après j'ai vu un autre film qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche. Là c'est un retour dans les années 80, c'est dans la sélection Un certain regard. C'est la construction de la Grande Arche de la Défense par un architecte, l'architecte qui l'a fait, donc un architecte danois, sous Mitterrand, les deux mandats de Mitterrand, parce qu'il y a un premier mandat, et quand il va perdre des élections et qu'il va y avoir la cohabitation, malheureusement son projet va être... mis à mal parce que tout ce qu'il avait prévu va être un peu dégradé parce que ça coûte très cher. Notamment, il y a une scène excellente où on le voit, il va donc la Grande Arche de la Défense sur les deux panneaux et sur le parterre est en marbre. Et donc lui, l'architecte voulait du marbre de Carrare. Donc on le voit qui va dans une carrière de marbre de Carrare où il est accueilli. On lui dit que c'est la carrière où Michel-Ange a choisi son bloc pour faire la Pietà. Et donc il veut ce marbre qui est un marbre ultra prestigieux, blanc immaculé, mais qui coûte évidemment très très cher, et donc il va pas pouvoir avoir tout ça, et à la fin malheureusement, et c'est la réalité, il va mourir aussi un peu de tristesse parce que son projet a été maintes fois amendé dans ce qu'il voulait. Après, il y a deux films un peu dans le genre musical, c'est Partir un jour, donc là c'est un film en compétition, c'est avec Juliette Armanet, où il y a des tubes un peu des années 80 qui émaillent un peu à mi-chemin entre une comédie musicale et un film où l'histoire est émaillée, donc des sentiments, des ressentis des personnes, un peu comme ce qu'avait fait comme le film On connaît la chanson. Et vendredi soir, j'ai vu le film de Bono, qui est une sorte d'adaptation au cinéma documentaire. C'est un spectacle, il y a des chansons, et il raconte la vie, il raconte un peu sa vie, parce que c'est tiré de son autobiographie, son livre autobiographique, et il rend hommage à ses parents, il rend hommage à sa femme, et notamment il raconte l'épisode où Luciano Pavarotti est venu un peu lui forcer la main, donc à Dublin, avec une équipe de la RAI, une équipe de je sais pas combien de personnes, pour qu'ils viennent et que U2 vienne faire le concert caritatif Pavarotti and Friends pour les réfugiés bosniaques. Donc c'est assez poilant parce qu'il raconte ça, il dit vraiment le maestro Pavarotti voulait vraiment qu'il y ait U2, mais les autres membres de U2 ne voulaient pas. Et puis Bono était un peu coincé parce que il faut savoir que son père était un ténor et qui évidemment il considère Pavarotti comme comme un des plus grands ténors de tous les temps. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de sa vie avec des anecdotes. C'est un très grand film c'est un film très sympa, surtout pour les fans, évidemment. Moi, je suis très fan de U2 et de Bono, donc forcément, je connaissais un peu tous ces épisodes et c'était un vrai plaisir de voir ça.
Ok, merci. Alors, on peut dire qu'après après la pyramide du Louvre, on est passé au tabouret de la Défense dans les projets, les grands projets.
Et puis... Alors, lui, l'architecte, il appelait ça le cube.
Oui,
mais
le cube.
C'est vrai que c'est un arche, puisque c'est un cube,
le cube
qui est
creux,
qui est ajouré au milieu.
Qui est
donc,
creux.
Ouais. On a appelé ça un arche par la suite. Mais sinon, l'architecte appelait ça un cube.
Et on a eu aussi les quatre livres ouverts de la nouvelle BN, qui est devenue également François Mitterrand. Merci beaucoup.
Et d'ailleurs, je juste précise là-dessus que François Mitterrand, donc, il s'inscrivait un peu dans la tradition florentine de la politique, etc. On va pas trop développer. Mais c'est lui qui a voulu qu'il y ait du marbre italien, puisqu'il disait qu'à Paris, il n'y avait pas de monuments, tout ça, avec du marbre italien. Et donc, il voulait que ça soit du marbre de Carrare, du marbre de Florence, qui soit présent sur l'Arche de la Défense.
Bien sûr, et c'est aussi, oui, au niveau de la culture, c'est un président qui a beaucoup fait, notamment avec son ministre de la Culture, Jacques Lang.
Ouais. Et il est joué dans le film par Michel Faux, et qui joue, hyper ressemblant, mais alors qu'il incarne fantastiquement.
Ok, merci beaucoup Fabrice. Continue.
Merci beaucoup à vous.
Et puis, on va continuer avec des réalisateurs qui sont passés souvent à Cannes, notamment Dessica, puisqu'on a fêté l'année dernière les 50 ans de son décès. Et on va écouter une chanson chantée par Vittorio Dessica, « Gli uomini che mascalzoni ».
La più bella stasera Mario, splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu, anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. So che una bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo ma sempre con te. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. Thank you. ami d'amore, Mario.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
C'était Par la vie d'amour et Mario par Vittorio De Sica. Donc je rappelle par exemple la publication à l'occasion des 50 ans du décès de Vittorio De Sica, un grand ouvrage collectif édifié, édité chez Grémez et qui s'appelle Tout Vittorio De Sica, et puis le Vittorio De Sica de Jean Gilly, voilà, qui vient de paraître également l'année dernière. Et on peut voir également un film fait par un Italien, en ce moment à Paris, qui s'appelle Giulio Calegari. C'est un film français avec Blanche Gardin et les robots. C'est un film comique, mais c'est un Italien qui l'a réalisé. On va rester avec Vittorio De Sica, avec une petite séquence du film Ieri Oggi Domani, la première séquence à Naples avec Adelina, qui est la belle Sophia Loren, et Marcello, qui est le mari. Pour ne pas être en prison, elle doit avoir des enfants tous les ans parce qu'elle fait du trafic de cigarettes. Et à force, le pauvre Marcello, de lui faire un enfant tous les ans, est un peu fatigué. Donc, ils vont voir un médecin. On écoute cette séquence chez le médecin à Naples. On va écouter d'abord un extrait des plus belles comédies donc, de Vittorio De Sica. C'est dans la séquence Ieri Oggi Domani. C'est la séquence d'Adelina. On est à Naples. Le mari n'arrive plus à donner à Adelina un enfant par an. Et donc, ils vont consulter le médecin. On écoute la visite chez le médecin.
Vedi che si tratta?
Carmine, tu sei l'uomo, tu devi parlare. Tiene soggezione. Il medico è come il confessore.
Professore, io...
Insomma, da quando ci siamo sposati è stata una continuazione. Per carità, mai che si fosse allentata, diciamo, questa corrente. 7 figli, professore, io sto ancora in periodo di allattamento.
Non è colpa mia, professore. La buona volontà ci sta.
Come no?
Per amore ci siamo sposati. Si capisce che ci stava la buona volontà.
E se andiamo avanti così, chi li mantiene a questi 7 figli? Lui è disoccupato, sono io che devo provvedere a tutto, professore mio.
Ti capisco, tua moglie ha ragione. Sicuro, ma io pure tengo ragione. Ma non siamo bestie. Certo, tua moglie è bella, vi volete bene, capisco come... Però, figlio mio, ti dovresti controllare. Ma non è il desiderio che mi manca, il desiderio lo tengo. E te lo fai passare. Dunque, voi non volete più figli?
Ma no, tutto al contrario, professore, tutto al contrario. Chiste, non funziona più.
Il desiderio ci sarebbe. Scusate, ma io non capisco. Ma voi che volete?
Nato figlia.
Con saluto. Allora sei venuta per fare visitare tuo marito?
Sì, signor.
E andiamo, va. Vieni, vieni. Vieni. Siediti qua. Levati la giacca. Il desiderio ci sta.
Eppure io tengo desideri, dottor.
Voilà, c'était cette séquence très comique avec ce pauvre Marcello, pourtant il desiderio ci sta. Aujourd'hui, en fait, notre triste anniversaire, c'est les 4 ans de la disparition du grand chanteur sicilien Franco Battiato, et on va l'écouter pour terminer cette émission dans La Stagione dell'Amore.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.